Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de retrouver Léo Fordrenier. Bonjour Léo.
Bonjour Sylviane.
Alors Léo, c'est un artiste dont j'ai fait la connaissance au CACN qui ouvrait dans ses nouveaux locaux en novembre 21. J'ai réécouté l'émission que vous pouvez aussi écouter en podcast. Et j'avais intitulé l'émission « Un jeune artiste en devenir ». Alors Léo, vous êtes un peu plus vieux.
Oui.
Et vous avez fait plein de choses depuis 2021. Ça marche pour vous, comme on dit, vous éclatez, vous faites plein de choses et vous êtes ravis.
Ouais, c'est vrai que depuis notre rencontre en 2021, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés et de très belles collaborations qui sont arrivées. C'est vrai qu'au CACN, c'était ma première exposition en institution lorsque j'étais invité par Bertrand Rioux. Et depuis, des beaux événements ont eu lieu, notamment ma participation à la Biennale de Lyon, qui a été un moment absolument extraordinaire dans lequel j'ai pu développer mon réseau professionnel et puis proposer une œuvre d'une grande envergure. Donc c'est des événements qui m'ont permis d'avancer dans ma carrière, de développer mon travail, jusqu'à collaborer du coup maintenant avec une galerie à Paris qui s'appelle la galerie Les Filles du Calvaire et qui représente mon travail
régulièrement
à travers des expositions, du soutien à la création et la diffusion. Donc c'est vraiment, disons que je suis très très heureux et qu'en ce moment, tout se passe à merveille et je peux vraiment travailler dans de très bonnes conditions.
Alors il y a des thèmes que j'ai retrouvés, puisqu'en fait vous êtes là pour nous parler de l'exposition qui est au site archéologique Latara, hein, le musée Henri Prade à Latte, qui s'appelle « Les historiens du futur », qui a commencé en janvier, qui dure jusqu'au 30 juin. Il y a cette belle affiche qu'on va mettre en visuel avec ce motard avec un casque profilé.
Oui.
Et dans la main, un objet du passé, on n'en dit pas trop. Donc c'est le choc du passé, du présent, du futur. Vous aviez déjà un peu ces thèmes hein, quand on s'est rencontrés en 21. L'Antiquité, vous êtes Nîmois, l'Antiquité fait partie de votre environnement en fait. Hein.
L'Antiquité, c'est vraiment le contexte aussi dans lequel j'ai découvert l'histoire. Mmh. Puisque voilà, ayant grandi à Nîmes, c'est vrai que c'est un contexte historique qui est omniprésent dans l'architecture, dans la décoration, dans l'histoire de la ville bien sûr, puisque c'était une ancienne cité romaine. Et c'est vrai que c'est devenu une source d'inspiration principale dans mon travail qui, je crois en fait, tente aussi de transmettre un héritage
de
cette culture et de ce patrimoine-là.
Alors vous expliquez, vous allez nous dire, hein, moi je ne savais pas, que les historiens du futur, vous avez pris ça dans un recueil de textes de Tadeusz Kantor.
Oui.
Et c'est vrai que vous avez fait des études aussi d'art dramatique, donc on sent la scénographie, on sent la mise en scène, on sent tout cela. Et puis vous avez été très aidé ou très soutenu par l'équipe du musée, parce que je ne pense pas qu'on fasse une exposition comme celle-ci sans un travail d'équipe.
Absolument, ça a été une véritable collaboration puisque le projet en fait a été construit pendant environ une année. Donc j'ai d'abord été invité par le site archéologique Latara en partenariat donc avec Montpellier Contemporain puisque le projet était supervisé par Amouna Boutayeb et Delphine Goutte. Et c'est vrai que avec le musée et les équipes du musée, ça a vraiment été une immersion. C'est passé par plusieurs temps de résidence où j'ai pu aller sur place, comprendre le fonctionnement d'un musée archéologique, le fonctionnement des réserves, la question de la conservation. Et en fait, j'ai sollicité chaque personne de l'équipe pour comprendre vraiment son rôle dans ce grand écosystème. Et c'est vraiment cette collaboration et ces temps de résidence et d'échange qui ont nourri le projet et qui m'ont amené aussi à la conception de tout ça, puisque la proposition était vraiment une carte blanche dans la collection permanente du musée.
Donc avec forcément, le titre déjà, Les historiens du futur,
titre est venu assez vite dans ma réflexion sur le projet. Mais non, là, au début, c'était vraiment une invitation.
Ah,
donc c'est un projet qu'ils font depuis plusieurs
années. En fait, à investir le musée,
c'est
et
ça.
Vous en avez fait un parcours.
Oui. Hein.
Il vaut mieux le savoir, je pense. Hein. Moi, j'avais lu un peu le détail après et je m'en suis voulu parce que quand on sait que c'est un parcours, on suit en fait ces historiens du futur qui sont des êtres hybrides qui viennent sur Terre et qui se nourrissent en fait du passé.
Tout à fait. En fait, c'était l'enjeu principal, c'était vraiment de trouver sa place au sein du parcours de la collection permanente, qui est bien sûr déjà scénographié, existant, codifié, avec énormément d'informations, puisque la collection du site archéologique Latara est absolument exceptionnelle.
Ah, c'est exceptionnel.
Donc l'idée était vraiment d'intégrer cette histoire que j'ai racontée dans quelque chose qui est déjà existant. Et donc c'est pour ça que les historiens du futur ont trouvé leur place et que le concept était de créer des faux visiteurs, des personnages, puisque c'était une manière d'introduire des visiteurs fictifs dans un rapport à l'expérience du musée.
Alors il y en a 15 et en fait ça démarre dès l'extérieur, hein, puisqu'on va beaucoup parler aussi de ces historiens du futur qui ont ces casques profilés, parce qu'ils sont tous des motards.
Oui. C'est ça, en fait. Les...
Non, pas de soucoupe volante, ils ont non, des non, motos volantes.
Non, c'est pas des extraterrestres, c'est vraiment... Tout ça, ça parle vraiment de l'humanité et du rapport qu'on a à la culture et à la mémoire. Et les historiens du futur, en fait, c'est un projet qu'il faut appréhender un peu comme un film de science-fiction. Du coup, le contexte, c'est vrai, je ne l'ai pas encore dit, mais le contexte du projet, ce serait donc un futur relativement dystopique dans lequel les ressources viendraient à manquer. Et l'humanité, donc du futur, pour combler cette carence en ressources, développe des technologies qui lui permettent de se nourrir en observant des objets du passé. D'accord. Donc bien sûr, tout ça est très métaphorique et parle vraiment du rapport que l'on entretient à la mémoire et de comment on se nourrit nous-mêmes, civilisation du présent, du passé pour construire le futur.
Alors comment vous avez, parce que chacun, je crois ne pas dire de bêtises, chacun de ces historiens du futur, qui est botté, qui est casqué, qui a aussi des éléments du passé, comment vous, en main ou dans un sac à dos ou par terre, comment vous avez choisi ces objets ?
C'est vrai que, alors ça me permet aussi de répondre, parce que je n'ai pas du tout fait à ta question précédente sur l'univers de la moto, puisqu'évidemment donc c'est une communauté de motards, et c'est vrai que bon, la moto c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail, puisque ça représente diverses émotions, divers sentiments, qui peuvent être de la liberté à l'amour. Mais ici, l'idée d'un groupe de personnes qui viendraient se déplacer pour survivre. Donc la moto est apparue assez naturellement comme esthétique et me permet d'avoir ces espèces de combinaisons qui renvoient à la fois à un univers cinématographique relativement dystopique et lié à la culture populaire. On peut penser à Mad Max ou à d'autres, films. Mais en même temps, c'était vraiment l'idée de parler d'un groupe qui survit, mais qui survit ensemble. Et donc, bien sûr, leurs combinaisons sont personnalisées avec d'autres objets que j'ai façonnés à l'atelier, à partir de moulages de copies de statues antiques. Et donc, on va retrouver des bustes, des parties de bustes, des fragments, des statuettes, parfois, et donc des céramiques également. Et tout ça dans l'idée de venir à la fois créer une identité qui est propre à chacun des historiens du futur, mais aussi de suggérer que ces historiens du futur se baladent et prennent avec eux divers éléments, comme pour faire des réserves. L'idée est vraiment de parler d'un groupe survivaliste qui parcourrait les musées du monde dans une quête de survivance et d'un meilleur futur.
Alors, je parlais de mise en scène parce que c'est vrai qu'il y a la reconstitution d'un habitat à Latara.
Oui, l'habitat gaulois.
L'habitat gaulois. Mais ce qui est assez surprenant, étonnant et qui nous sollicite beaucoup, c'est-à-dire les objets du musée, les historiens du futur, et puis des mises en scène comme dans... Moi, j'ai beaucoup aimé cette boule dans la maison gauloise.
Oui.
Elle m'interpelle beaucoup. Et puis ce grand échafaudage avec cette phrase qui est
« The limit of the earth at the end of paradise ».
Voilà, oui. Sur un échafaudage et on a les... C'est là où il y a le plus grand groupe en fait.
C'est ça, c'est là où il y a la plus grande scène.
La plus grande scène.
Qui m'a été inspirée d'ailleurs par des dispositifs muséaux que j'aime beaucoup comme le diorama. Mais en fait, justement cet échafaudage qui a donc à son sommet cette phrase néon, donc « aux limites de la terre et à la frontière du paradis », c'est en fait une phrase qui est attribuée au dieu romain Janus, qui était le dieu bicéphale, donc à deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers le futur.
Ouais.
Et donc c'est vrai que c'est une divinité qu'il a été importante de représenter dans cette exposition, puisqu'on est vraiment dans ce rapport-là de rencontre entre les artefacts du passé et l'élaboration d'un avenir. Et en fait, dans l'échafaudage, c'est aussi important de le noter, il y a deux amphores étrusques qui sont de vrais amphores étrusques qui m'ont été prêtées par le musée, issues de leurs réserves.
Bien protégées.
bien protégé, manipulé bien sûr par l'équipe du musée. Mmh. Mais voilà, quand je parlais de collaboration, c'est vraiment aller assez loin, puisque effectivement, moi, dans mon exploration des réserves, j'ai fait une sélection de différents objets dont la narration pouvait correspondre à différents aspects que je voulais mettre en avant, et donc j'ai pu intégrer ces objets. Hein,
Ça se fait très bien, cette liaison, moi, je trouve, entre le passé, c'est-à-dire les vrais objets du passé, et puis ceux que vous avez modelés. Hein, parce que, je le disais aussi dans la première émission, vous mettez la main à la pâte, c'est-à-dire vous moulez, vous manipulez, c'est important. Hein.
Ah oui, c'est pour ça. Moi, c'est un travail de sculpture qui passe vraiment par l'exploration et la transformation de la matière. Donc, l'Antiquité, bien sûr, c'est une source d'inspiration narrative, mais en termes de technicité et de pratique, c'est vrai que les techniques du moulage, qu'elles soient traditionnelles ou liées aux nouvelles technologies avec le scan 3D, etc. Il y a vraiment des choses, moi, qui me plaisent à explorer. Et donc, oui, à l'atelier, j'aime beaucoup mettre les mains à la pâte.
Alors, cet atelier, il est à Toulon, c'est là où vous êtes fixé. Mais bon, on peut en voir... Est-ce que vous avez... On en reparlera à la fin de l'émission, il y a beaucoup de projets. Comment vous travaillez? Vous avez des... Comme là, avec le Moko et la Tara, entre guillemets, des commandes, ou est-ce que c'est selon votre mode de réflexion, selon l'actualité, selon...
C'est vrai que je suis... Donc j'ai un espace de travail. Déjà, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas isolé. J'ai un espace de travail dans un tiers-lieu culturel à Toulon qui s'appelle Le Port des Créateurs et qui, depuis 2019, accompagne mon développement professionnel sur le territoire. Donc du sud de la France, mais en même temps à l'échelle nationale aussi. Et c'est dans ce contexte-là, de cet espace collectif et mutualisé, que je développe mon travail, donc où il y a d'autres artistes et notamment des associations culturelles qui s'y développent aussi. Donc c'est un écosystème dans lequel, en fait, il y a une source d'inspiration et de rencontre qui est constante et qui me permet vraiment de ne jamais, entre guillemets, stagner, puisque les rencontres quotidiennes, les visites, que ce soit du secteur professionnel, typiquement art visuel ou même d'autres catégories, me permettent vraiment de rebondir et de rencontrer. Donc c'est vrai que la Tara, c'était une résidence, une proposition, mais j'ai une activité quotidienne de sculpture, d'expérimentation à l'atelier au Port des Créateurs. Et effectivement, ça, c'est des choses qui, après, sont présentées, discutées à la galerie, par exemple, et puis on trouve des moments et des endroits pour présenter tout ça.
Est-ce que les historiens du futur, on les verra ailleurs? Est-ce que
c'est une excellente question, puisqu'on parle de motards, on parle de survivance, on parle de déplacement. En fait, moi, j'ai imaginé le projet des historiens du futur comme un projet itinérant. Donc, c'est évidemment quelque chose qui prendrait vraiment sens par rapport au contexte même. La moto se déplace, et puis les historiens du futur, en tant que communauté, disons que cette fiction-là est finalement universelle et peut se déplacer. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place.
C'est un site romain, ou enfin étrusque, romain, grec. On peut imaginer les historiens du futur au Moyen-Âge, on peut imaginer
que dans tous les cas, ils se nourrissent et ils regardent le passé pour en tirer aussi des conclusions et un enseignement.
Voilà des idées.
Ouais.
Et j'ai une petite question. Les casques, c'est vous-même qui les avez fabriqués ou vous avez...
Les casques sont faits à partir de casques de moto récupérés que j'ai ensuite personnalisés. Et s'ils sont un peu plus allongés, c'est aussi parce qu'ils sont associés à d'autres éléments de moto, notamment des visières et surtout à des tubes néons que j'ai dessinés, mais qui ont été réalisés par un artisan néon absolument fantastique qui est basé à Nîmes, qui s'appelle Souffle de Light, petite publicité. Mais voilà, vraiment, c'était une manière. Moi, j'avais des idées et ensuite, je trouve aussi des personnes qui ont des techniques que moi, je ne manipule pas et qui m'ont permis d'arriver à cette esthétique.
Dans un tiers-lieu, je pense qu'il y a aussi une utilisation des outils.
Oui, absolument. Et puis une entraide et un partage de connaissances et de compétences.
Est-ce que vous faites un croquis d'abord ou est-ce que ça se fait sur l'objet?
À l'atelier, si vous voulez, à l'atelier, c'est comme si j'avais une grande matériothèque. Donc, je récupère au quotidien énormément d'objets. Et les tests se font souvent à l'échelle, donc directement par l'assemblage, avec des prototypes. Et ensuite, en fonction de mes choix, bien sûr, je viens finaliser et remouler ou reproduire les prototypes. Oui.
Alors, j'ai une question, moi, qui me trotte dans la tête quand j'ai visité, parce que j'ai visité en semaine, il n'y avait pas grand monde, et je n'ai pas réussi à percevoir si les visiteurs dissociaient la visite du musée, disons, antique, et les historiens du futur, ou s'ils arrivaient à mélanger les deux. Puisque c'est ouvert depuis maintenant 2 mois, je suppose que vous en avez des échos.
Ouais, j'ai eu des très bons échos, notamment, en fait, ben là, il y a un aspect important d'ailleurs du fonctionnement du site archéologique de la Tara, c'est les visites de scolaires. Ouais. Donc il y en a énormément. Et donc moi j'ai fait bien
ça
sûr
doit leur plaire.
Voilà les scolaires le public enfant adolescent adore le projet. En plus ce projet du coup est vraiment bien présenté par l'équipe de médiation voilà, du site ouais. archéologique puisqu'on a fait des visites ensemble pour que moi je puisse aussi leur expliquer quelles étaient les idées du projet. Donc c'est vrai que ces équipes de médiation en fait ont bien sûr le parcours historique et pédagogique de la collection permanente, mais prennent en compte, évidemment, l'intervention. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que les gens sont assez surpris, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à retrouver cette esthétique au sein d'un musée archéologique. Ouais. Mais voilà, c'est pas un choc, c'est plutôt, moi je vois plutôt ça comme une rencontre.
Comme une rencontre, comme une surprise.
Comme une surprise, et finalement, ces historiens du futur, étant donné qu'ils sont humanoïdes, ce sont des visiteurs au même titre que nous. Donc il y a ce jeu un petit peu de miroir entre notre propre rôle de visiteur et celui que les sculptures nous donnent à voir aussi.
Mais on peut aussi, je dirais, faire deux visites en une. Hein. On peut faire le musée archéologique.
Absolument.
Et puis après faire les historiens du futur. Moi, je sais que j'ai fait plusieurs allers-retours et j'ai beaucoup aimé la maison gauloise avec. Je trouve que là, il y a une conjonction, ça s'emboîte, ça s'interfère très bien. Puis avec ces deux petits historiens du futur.
Oui, les deux enfants, ben, en fait, on parle de futur un peu dystopique. L'expo n'est pas si pessimiste que ça. Enfin, moi,
non.
Je suis quelqu'un d'assez optimiste.
Je ne l'ai pas ressenti comme pessimiste.
Et voilà, on est vraiment dans l'idée qu'on a une solution. La solution, c'est l'histoire. Et donc, cette humanité va continuer à grandir, à se développer. C'est pour ça qu'il était essentiel que dans cette communauté, il y ait deux enfants. C'est un peu voilà, une porte vers le futur.
Et avec un drapeau. Enfin, moi, ça, j'ai tout de suite pensé à la conquête de la Lune. Je ne sais pas si c'était
votre idée. Ah, c'est rigolo.
Idée.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. C'est vrai que moi, j'étais parti dans...
Mais c'est plutôt un fait de génération. Peut-être moi, je l'ai vécu, ce drapeau sur la Lune.
Bien
moi,
sûr.
Alors 69, que là, c'est vrai. Extraordinaire.
Là, ils ont ce drapeau un petit peu bricolé. L'idée était aussi de dédramatiser un petit peu la situation avec donc deux historiens du futur enfant qui, en fait, pourraient peut-être être là, eux, pour s'amuser.
Mais chacun, en fait, voit ce qu'il veut
c'est
voir.
C'est ça qui est merveilleux avec la création.
Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on on peut tourner autour d'eux, donc on peut voir les détails. On peut...
Oui, il y a plein de détails, il y a pas mal de clins d'œil à mon propre travail, mais aussi à l'histoire de l'art. On peut retrouver la Vénus de Milo dans l'un des personnages. Et tout à l'heure, pardon, encore une fois, j'y ai pas répondu, mais tu parlais aussi de sac à dos. Enfin, il y a pas mal de choses un peu cachées qu'il faut prendre le temps de voir.
Il faut prendre le temps.
Au même titre, d'ailleurs, que lorsque moi, j'ai découvert la collection permanente du musée, il est impossible de tout analyser d'une traite, tellement voilà, la collection est riche et pleine de détails. Donc j'avais un peu envie de rentrer dans cette échelle de lecture avec quelque chose qui donne envie d'y revenir.
Alors le musée est très très beau avec sa rampe d'accès, avec ses grandes vitres qui donnent sur le site. On peut imaginer que la mer était là, que c'était un port.
Oui, le Lez passait en bas du musée.
Donc il y a toute une réflexion aussi sur l'avancée de la mer, sur l'avenir. Et vous avez choisi David Bowie, ça ne m'étonne pas, parce que c'était un être un peu... mi-homme, mi-femme, mi... Et donc, et puis en plus, on va voir, vous travaillez beaucoup aussi sur les constellations, donc...
Là, c'est vrai que le choix pour l'émission de diffuser Bowie, c'est vrai que c'est un personnage, je ne vais pas dire qu'il m'inspire tous les jours, parce que ce n'est pas vrai, mais qui, voilà, en tout cas, a marqué une esthétique, a marqué une fascination pour... pareil, on parlait tout à l'heure de mon expérience au théâtre, mais voilà, ce fait d'interpréter un rôle, d'interpréter un personnage dans sa création. Et effectivement, moi, dans ma manière de concevoir mes œuvres, c'est souvent des personnages. Donc tout cet héritage du théâtre et de la scénographie, c'est quelque chose, et de l'incarnation, du texte également, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours. Donc Bowie, ici, avec Black Star, qui est un de mes morceaux préférés, en l'occurrence, de cet artiste, me semblait assez cohérent avec... mes choix récents et en même temps une esthétique très portée vers le ciel étoilé, effectivement, comme on le dira tout à l'heure.
Et puis, je trouve que ça montre aussi, c'est une curiosité permanente. Hein, donc, je trouve que se nourrir, je trouve que le sous-titre, ça pourrait être se nourrir, justement, se nourrir de tout, nourrir de la curiosité, ne pas rester figé, j'aime beaucoup. Et avant qu'on écoute les historiens du futur, donc c'est le texte de Tadeusz Kantor. Et c'est très bien, je trouve.
Oui, mais Tadeusz Kantor, c'est un auteur et un artiste que j'aime énormément. J'avais réalisé une partie de mon mémoire à son propos lorsque j'étais en école d'art. Et c'est un artiste qui me plaît énormément. Et la formule des historiens du futur, c'est vrai que lui, il l'évoque dans un texte qui est plus lié à l'esthétique d'après-guerre. Mais voilà, où il interroge aussi quelles traces nos civilisations laissent pour le futur. Et tout ça est assez important.
Sur Radio Alliance Plus, nous continuons cette conversation avec notre historien du futur. C'est une plaisanterie, Léo. Oui. Léo Fourdrinier, dont vous pouvez voir l'exposition Les historiens du futur au musée archéologique de Latara, donc le musée Henri Prade à Latte, jusqu'au 30 juin. Je vous invite à y aller parce que c'est vraiment une interrogation. Le site est très beau. On voit le passé, on voit le présent, on voit le futur. Et puis, ça insiste bien sur l'importance du musée. Hein. Je pense que le musée, c'est un maillon fondamental. Je ne parle pas que de ce musée-là, je parle de tous les musées.
Les musées, bien sûr. Bah, le rôle des musées, il est essentiel, puisque en termes de, voilà, d'héritage, de transmission, la culture est essentielle,
oui.
On le sait,
c'est vrai. Il faudrait le dire à certains.
Il faudrait le dire un peu plus souvent, et aujourd'hui, en ce moment, c'est très
dramatique.
Compliqué.
Oui.
Mais c'est vrai que c'était vraiment une manière d'honorer en fait ce rôle essentiel. Tout ce projet parle de là, c'est vrai que c'est les historiens du futur, mais les historiens du futur, c'est plutôt nous au présent.
Oui.
L'idée est vraiment de montrer cette importance des échanges et de la mission que les musées remplissent.
Alors, on est accueilli par une Vénus moto, Vénus en marbre de Carrare. Vous avez dû bien vous amuser.
L'œuvre est très ambitieuse. Et c'est vrai que voilà, c'est dans des moments comme ça où on a une invitation dans un lieu d'envergure où on peut sortir des idées. Et là, donc la Vénus, donc c'est une moto Yamaha dont la carrosserie a été réalisée en marbre de Carrare. Et elle s'inspire directement en fait, d'une sculpture qui est la Vénus accroupie ou Vénus de Vienne, qui est conservée au musée du Louvre. Mmh. Donc on y voit la Vénus, déesse de l'amour, accroupie. C'est une statue en marbre également, qui est une copie d'une statue grecque, bref. Mmh. Et en fait, elle a dans son dos un fragment de main qui était la main de Eros, un autre dieu de l'amour, représenté sous les traits d'un enfant. Et donc, j'ai repris, en fait, l'esthétique de cette sculpture antique. Et c'est pour ça qu'on retrouve la main d'enfant posée sur le réservoir de la moto.
C'est pour ça qu'il faut voir vraiment les détails.
Il faut aller regarder les détails. Et en termes de silhouette, on retrouve dans la moto le corps. Et tout ça aussi pour évoquer à nouveau, à travers le véhicule de la moto, le sentiment de l'amour.
Ouais. Donc si on est un peu surpris, je ne vais pas dire choqué, mais un peu surpris au départ, il faut prendre le temps, il faut réfléchir, il faut se promener, il faut regarder. Il y a ce historien du futur qui est assis, alors je ne sais pas s'il est en contemplation ou s'il est épuisé. Et puis moi, j'aime beaucoup les deux qui sont sur la mosaïque. Là, moi, je suis
restée... Ah oui, bah les deux amoureux encore.
Les deux amoureux, j'ai trouvé ça merveilleux. J'y ai passé beaucoup de temps et c'est vrai que c'est vraiment une très, très belle visite. Donc, je suppose que vous avez déjà plein de projets. Je sais que là, vous partez après au MOCO pour faire un atelier avec des personnes hospitalisées.
Oui, c'est ça. C'est un programme qui s'appelle Art sur ordonnance. Et donc, avec un groupe de participants qui sont patients au CHU de Montpellier, je vais animer un atelier de création de sculptures et nous allons créer ensemble notre historien du futur, collectivement. Donc ça, c'est des projets moi, qui m'enrichissent énormément. Et après, en projet d'exposition, je participe à une exposition proposée par le CNES, donc le Centre National d'Exploration Spatiale, puisque j'ai été lauréat d'un appel à projet sur le thème de la mélancolie de l'espace. Et ça, c'est une exposition qui aura lieu à Paris du 28 au 30 mars prochain.
Que deux jours, trois jours.
Oui, trois jours.
Trois jours.
C'est une exposition qui rassemble les différents lauréats des différents appels à projets du CNES.
Et donc là aussi, vous rencontrez plein de gens, c'est un
échange. Ben oui, c'est toujours un échange. Et puis l'Observatoire de l'espace du CNES, c'est aussi une manière de rentrer en contact avec un autre champ de recherche, celui de l'exploration spatiale, qui est juste fascinant et qui m'inspire déjà
depuis...
Du
futur jusqu'au spatial, vous avez dit, ce ne sont pas des extraterrestres, mais il n'y a qu'un pas à franchir.
Disons que voilà, en termes d'esthétique, en termes de recherche, de philosophie, évidemment, cette immensité du ciel étoilé, elle est connectée à cette recherche constante d'un futur. Mais voilà, tout ça rejoint des préoccupations qui étaient déjà présentes, puisque je collabore avec un ami astrophysicien depuis plusieurs années, Arthur Lesseau, avec lequel nous allons organiser une fête de la science, portée par le secteur culturel, en octobre prochain, au Port des Créateurs.
Je suppose, Léo, que vous lisez constamment, vous suivez l'actualité, vous...
Je me nourris un peu comme les historiens du futur de tout ce qui m'entoure.
Et comment ça émerge comme ça, brusquement, ou c'est tout un travail, au contraire, de réflexion, de...
Ben, les
un
formes,
peu les deux.
Disons que les formes à l'atelier, voilà, puisque l'espace s'y prête, et que mon travail de sculpture passe vraiment par l'assemblage, la récupération et le moulage, les choses se connectent et parfois des inspirations spontanées arrivent. Mais bien sûr, par rapport à mes axes de recherche qui se développent depuis plusieurs années, les choses se creusent, s'affinent. Et c'est aussi d'ailleurs au contact d'autres structures, que ce soit la galerie ou le port des créateurs à Toulon, que je suis un petit peu... Voilà, orienté vers des choses qui peuvent m'enrichir.
Et ouvert à tout.
Et a priori, ouvert à beaucoup de choses.
Ouvert à beaucoup. Ben merci beaucoup, Léo, d'avoir pris le temps de venir dans cette actualité très, très dense. Je rappelle, donc, allez voir les historiens du futur au musée de l'Atlatara, jusqu'au 30 juin. Et avec ces petites indications, je pense qu'on en profite encore plus et prendre du temps.
Oui, il faut prendre le temps.
Merci à vous, Léo.
Merci. Avec les gens.